Bonjour à vous tous. C'est un plaisir d'être là pour pouvoir apporter ce message. Ça fait 2-3 semaines que je travaille dessus, toujours avec l'objectif de vous voir face à moi, un regard concentré, et de pouvoir vous communiquer ce que ce texte a pu me dire, et du coup nous dire, j'espère. Laurence vient de faire le teasing comme quoi on allait parler de l'Esprit-Saint. Mais moi, avant ça, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que ça vous plairait que Jésus soit là ce matin? Là, je ne sais pas, par exemple, assis là. J'imagine, c'est quelque chose dont on a plutôt envie. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, et si moi j'avais été un contemporain de Jésus, et si j'avais fait partie des 12 qu'il avait appelés? J'aurais passé 3 ans avec lui, ça aurait été chouette. Et, bon, il n'y aurait pas Internet, mais ça aurait été chouette quand même. Pour parler du Saint-Esprit ce matin, le texte qu'on va regarder ensemble, c'est le texte qui se trouve en Jean 14. Et pas tout le chapitre. Mais en tout cas, dès le verset 15, et on va aller jusqu'au verset 27. Je vais lire dans la version du Semeur, mais prenez votre version et suivez avec moi. C'est Jésus qui parle, et qui parle à ses disciples. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous. Et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je suis vivant et que vous aussi, vous vivrez. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père, vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi, je suis en vous. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Jude, qu'il ne faut pas confondre avec Judas Iscariot, lui demanda « Seigneur, pourquoi est-ce seulement à nous que tu veux te manifester et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera, nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas ne met pas mes paroles en pratique. » Or, cette parole que vous entendez ne vient pas de moi, c'est la parole même du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le Défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne, je ne vous la donne pas, comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés. Et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Avant de s'attaquer à un texte, j'aime bien regarder le contexte. Qu'est-ce que nous dit ce contexte? Jésus parle à ses disciples, et il ne leur parle pas à n'importe quel moment. Il est en train de leur annoncer son départ. Ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Il y a 3 ans de ça à peu près, Jésus leur a dit « Suis-moi ». Et là, maintenant, il leur a dit « Je m'en vais ». Il faut se rappeler aussi qu'au moment où les disciples ont suivi Jésus, ils ont finalement tout plaqué. Ils ont laissé leur ville, leur famille, du coup peut-être leurs amis, leur travail, absolument tout. Et là, Jésus s'en va. En plus, ils le savent, ils l'ont vu, ils savent que cette parole de Christ, et cette parole en laquelle ils croient, elle est contestée, et pas par n'importe qui, par les autorités juives. ils vont se retrouver tout seuls. Et nous, à leur place, si nous avions été des 12, comment serions-nous ? Dans quel état émotionnel serions-nous ? Imaginez, vous avez quitté votre boulot, vous avez déménagé sans votre famille, sans vos amis, pour un projet qui sur le papier semble prometteur, mais un peu fou quand même. 3 ans plus tard, le projet bat de l'aile, terminé. Dans quel état êtes-vous ? C'est dans ce contexte d'annonce de son départ que Jésus vient vers ses disciples, et pas simplement pour leur annoncer qu'il part, mais pour les rassurer. On va voir 2 choses ce matin, 2 choses qui me semblent ressortir de ce texte et intéressantes à voir. Jésus, il fait un lien fort entre l'amour pour lui et l'obéissance. Ce sera notre premier point. Et Jésus aussi annonce la venue du Saint-Esprit pour prendre sa suite. Notre texte, notre passage, en tout cas, commence par ce verset. Ce n'est pas la première parole de Jésus dans cette prise de parole qui est plus longue, mais en tout cas pour notre passage, ça commence ainsi au verset 15. Si vous m'aimez, alors obéissez. Non, pardon. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et ça, c'est une affirmation qui va reprendre par 3 fois. Donc, une fois au verset 15, une fois au verset 21, celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Ça, c'est juste avant la question de Jude. Et juste après la question de Jude, pour commencer à y répondre, il dit au verset 23, si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Dans une forme de discours, répéter quelque chose, c'est répéter quelque chose d'important. En tout cas, c'est montrer à son auditeur que ce point-là, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de structurant. Et le fait qu'il le répète par 3 fois dans notre texte, peut-être avec des mots un peu différents en plus, nous montre à nous, lecteurs, qu'il y a quelque chose à en tirer de ça. Un point qui me semble vraiment intéressant dans la manière dont Jésus le dit, c'est qu'il utilise le ton indicatif et non pas le ton impératif. Je m'explique. Voilà ce que Jésus n'a pas dit. Si vous m'aimez, alors obéissez, suivez mes commandements. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. L'indicatif, dans sa forme, et il le fait de la même manière, avec le même ton indicatif dans les 3 versets, nous montre que c'est un constat, c'est une information, c'est peut-être même une promesse, une prédiction. L'obéissance, dans les mots de Jésus, dans sa pensée, est quelque chose qui est normal. Qui est normal si nous aimons Christ. C'est en suivant, finalement, les enseignements de Christ que nous allons, d'une certaine manière, lui montrer notre amour pour lui. Quels sont les enseignements de Jésus ? Je ne vais pas faire la liste complète, mais il y en a un qui est intéressant, en tout cas. C'est que dans le chapitre précédent, il avait dit à ses disciples, « Aimez-vous les uns les autres. » C'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement dans la Bible et en tout cas dans le Nouveau Testament, ces 2 dimensions entre l'amour pour Dieu, cette relation verticale de l'homme vers Dieu, vers Jésus, et l'amour horizontal, enfin cette relation horizontale en tout cas, cet amour entre les frères et sœurs. Les 2 vont de pair. Aujourd'hui, obéir dans notre société, c'est pas trop en vogue. C'est pas le truc qui marche le mieux. Ça coince un peu quand on demande à quelqu'un de nous obéir. En tout cas, il faut avoir des arguments sérieux. Ah, par contre, à l'inverse, aimer, c'est cool. Ça marche bien. Et pas que entre chrétiens. Ça marche vraiment bien dans tous les domaines. Alors, Peut-être que d'une certaine manière, on pourrait tenter de prendre l'un sans l'autre, de dire l'amour, c'est bien, l'obéissance, je verrai. Ce serait une erreur, je crois, de faire ça, de faire ce tri. Toute la Bible nous montre que la foi, l'amour, l'obéissance, c'est un package, ça va ensemble. Et je vous parle de toute la Bible, peut-être du coup vous le trouvez dans l'Ancien Testament, mais aujourd'hui, vous le faites aussi naturellement. Je ne sais pas si vous traînez sur YouTube ou sur Insta, sur Pinterest, sur tous ces endroits où il y a des créateurs de contenu qui vous proposent quelque chose. Et je vais prendre YouTube pour l'exemple. Dans la pratique, si vous aimez ce que le créateur fait, lui, de son côté, il va vous inciter à liker la vidéo, à vous abonner. De cette manière-là, un peu, c'est son business model. Hein. Il va s'assurer que les prochaines vidéos qu'il va vous proposer, elles vont bien remonter dans votre page d'accueil et tout le monde sera content. Pour ma part, je confesse devant vous, je suis une chaîne, oh, j'en suis plusieurs, mais je vais en parler que d'une. D'un type qui s'appelle le Grand Gaulois. Enfin, sa chaîne s'appelle comme ça. C'est un gaillard avec un physique de rugbyman. Il fait 140 kg pour 1m98. C'est pas que du muscle. Et il nous parle de passion. Il nous parle de terroir avec passion. Mais vraiment. Vous voyez Maïté, pareil, mais aujourd'hui, le terroir, c'est son truc. Et un jour, il a montré comment lui, il faisait du pain. Il faisait du pain avec son propre levain. Il aimait garder son levain et il travaillait avec ça. Et je me suis dit, oh, mais quand même, pour ma pâte à pizza, ce serait quand même chouette d'avoir mon propre levain. Alors, ça fait sourire Sophie parce qu'on en a parlé à la maison, mais ce serait quand même chouette. Je ne l'ai toujours pas fait. Diverses raisons qui feraient que je n'ai toujours pas fait. Mais ce que je veux vous dire par ça, c'est qu'à chaque fois que je vais déchirer un petit sachet de levure de boulanger pour préparer ma prochaine pizza, je me dis, mince quand même, ce serait chouette d'avoir ce levain. Il y a ce petit regret, cette envie qui est renouvelée. Jésus, lui, il a commencé sa chaîne avec 12 abonnés. Puis après, rapidement, ça a fait des dizaines de millions de followers. Alors, d'ailleurs, le concept de suivre une chaîne, c'était inventé par Jésus, hein, vous avez vu. Suivre Christ, l'aimer, rester d'une certaine manière abonné à sa chaîne, et d'un autre côté, ne pas suivre ses enseignements, c'est un peu comme mon affaire de levain. Si j'aime vraiment l'idée, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de mettre en pratique dans ma vie. Et Christ, lui, il est clairement affirmatif dans ce lien entre obéissance et amour, parce qu'en disant que si quelqu'un l'aime, il suivra naturellement ses enseignements. Cette simple répétition dans la bouche de Jésus, je crois qu'elle nous aide à revoir l'ordre dans lequel nous devrions orienter nos efforts. Renforcer notre amour pour Christ en ayant en tête ses enseignements devrait mécaniquement augmenter notre obéissance à ses commandements. Et oui, je pourrais vous faire une liste d'enseignements de Christ pour se dire, voilà, ce qu'il faudrait faire plus ça et un peu plus de ça et puis moins de ça. Toutefois, je crois que là, à la lumière de ce texte, le bon point de départ, c'est d'aimer Jésus. La connaissance intime de Christ va développer notre passion pour lui. Et ça, ce serait la première chose à faire, et peut-être même la seule chose à faire, si j'en crois ce texte. La mise en œuvre des enseignements devrait se mettre en place, naturellement. Concrètement, comment augmenter notre amour pour Jésus ? Vous faites comment pour créer et entretenir vos amitiés ? C'est quoi le secret ? Il faut passer du temps avec ses amis. Il faut parler, il faut discuter avec ses amis. C'est pas plus compliqué que ça avec Jésus. Si on veut lui parler, on prie. Si on veut l'écouter, on a sa parole. Comme je le disais, tout l'ensemble du passage ici est une suite d'affirmations. Il n'y a pas de « il faut ». Et nous avons vu que par trois fois Jésus, lui, fait le lien entre amour et obéissance. Et cette affirmation, c'est même pas le cœur de ce message. Elle est répétée parce que c'est une condition. C'est la condition à la venue du Saint-Esprit. La foi en Jésus suffit à accorder l'Esprit-Saint. Et c'est de cette annonce, de ce cataclysme dans l'œuvre rédemptrice que Dieu a mis en place, qu'on va maintenant parler. L'Esprit-Saint est la parfaite suite de Christ. À cause de notre amour pour lui, pour Jésus, Jésus est réellement présent à nos côtés, ici et maintenant, par le Saint-Esprit. Je vais relire le dernier verset de notre texte, le verset 27. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Je vous rappelle ce que j'ai dit au début, l'état émotionnel dans lequel devraient se trouver les disciples. En tout cas, je l'entends comme ça, ce n'est pas dans le texte, mais imaginons-nous à leur place, Jésus s'en va. Et on a une réponse de Jésus qui rassure. Voilà son objectif. Jésus se veut rassurant et adresse la crainte pour les disciples de finalement se retrouver à porter seuls face au monde leur foi, leur engagement pour Christ. Leur engagement qui a été public d'ailleurs. Jésus fait un lien entre la venue de l'Esprit et lui-même. Et il y a des similitudes qui sont flagrantes dans notre texte. Donc suivez avec moi, si vous voulez, au verset 16. Jésus nous dit que le Père va nous donner un autre défenseur. Dans le texte, Jésus est le premier paraclète, le premier défenseur, le premier avocat, témoin pour les disciples, envers le procès, un peu continu, mais procès que le monde leur fait à cause de leur foi. Au verset 17, l'Esprit Saint, Jésus nous dit qu'il est l'Esprit de vérité. Et nous savons, dans le verset 6 de ce même chapitre, que Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Deux fois la vérité. Toujours au verset 17, nous savons que Jésus, lui, il est demeuré avec ses disciples, au sens que il a vécu avec eux, il a mangé avec eux, il a passé ses journées avec eux, ses nuits aussi, auprès d'eux. Et ça pendant 3 ans. Et l'Esprit-Saint demeure, du coup, dans le même sens, dans le même mot, auprès des disciples. Et il est en nous. Pas simplement auprès de nous, il est en nous. Il y a peut-être même un mieux que simplement la présence de Christ auprès de ses disciples. Au verset 18, on a un double sens. Quand Jésus dit qu'il reviendra vers vous, vers les disciples, on peut penser à la fois qu'il annonce son retour après la résurrection. Vous savez, Jésus est mort, ressuscité, il a passé quelques jours avec ses disciples, et puis après, il y a eu l'ascension. Donc oui, Jésus a promis qu'il reviendrait, il est revenu. Mais on peut voir aussi qu'il annonce la venue de l'Esprit-Saint en ça. Car Jésus est le Saint-Esprit. Bien que ce soit deux entités distinctes, ne font qu'un. Par le concept de la Trinité, mais aussi concrètement par leur rôle et par leur présence auprès des disciples. Verset 20, comme en verset 17, du coup, Jésus dit d'être en nous et non avec nous. C'est ce qui laisse penser que c'est plus qu'une simple résurrection et 3 jours avec ses disciples. Enfin, 3, et c'est un peu plus. Et finalement, au verset 27, Christ laisse sa paix. Ce n'est pas simplement de dire que l'Esprit apportera la paix aux disciples. Non, il apportera la paix de Christ, sa paix dans les mots, dans la bouche de Christ. Jésus et Saint-Esprit sont indissociables. Deux membres de la Trinité, Dieu, le Père et le Saint-Esprit, mais aussi parce qu'à partir de la Pentecôte, l'Esprit-Saint prend complètement le rôle que Christ avait pour son Église. J'aimerais vous proposer une autre illustration. On va laisser tomber YouTube. Et maintenant que vous avez regardé plein d'écrans, vous allez vouloir sortir. Et avec des amis, vous vous dites, tiens, on va gravir une haute montagne, faire une grosse randonnée. Et comme c'est la première fois que vous partez dans cette aventure, sur cette montagne, vous êtes sage et vous avez pris les services d'un guide de haute montagne. Donc très bien. Le départ se passe bien. Et arrivé au chalet d'étape pour passer la nuit, le guide, il vous dit, bon, ben, je suis désolé. Moi, il faut que je file. De toute façon, je ne vais pas pouvoir rester, mais comme on a fait une journée ensemble, vous savez comment ça marche, on monte et puis voilà. Allez, à plus, on se retrouve en bas. Comment est-ce que vous recevez cette nouvelle? Ce n'était pas le deal de base. Plutôt confiant, si, ça va aller, ou bof, ça va être chaud. Christ, il a mis ses disciples un peu devant la même info. Sauf qu'il a expliqué qu'il va passer le relais, lui, à un autre guide. Pour les accompagner, pour rassurer, pour équiper ses disciples jusqu'au bout du chemin. Alors pour nous qui n'avons jamais connu la présence physique de Christ, on a, d'une certaine manière, pris l'habitude d'avancer seul. Seul. Est-ce que c'est vraiment seul que nous sommes? Nous avons un guide qui est constamment avec nous. Et bien qu'il soit invisible à nos sens, c'est un guide aussi présent que Christ l'était pour ses disciples. Je crois que pour se rendre compte de la présence de l'Esprit en nous, dans son Église, il suffit d'imaginer que Christ est là, présent, dans cette salle. Christ, lui, a donné le Saint-Esprit aux membres de son Église afin de leur apporter tous les avantages de sa présence, malgré son retour auprès du Père. Alors, dans l'attente du retour de Christ, du retour promis de Christ, nous ne sommes pas seuls et nous pouvons nous reposer sur l'Esprit-Saint. En effet, c'est à cause de notre amour pour lui. Jésus est réellement présent à nos côtés, ici et maintenant, par le Saint-Esprit. Je vous demandais si ça vous plairait que Jésus soit assis là, parmi nous ce matin. En réalité, au-delà de ce que nos sens peuvent constater, il est là ce matin. Alors, est-ce qu'il est assis? Je ne sais pas, mais il est là. Le Saint-Esprit prend la suite de Christ auprès de nous dans notre vie tournée vers la proclamation de l'Évangile. Et je crois que c'est bien dans ce contexte-là que sa promesse a été donnée. Que ce soit au travers de notre service dans une église, dans notre témoignage, dans les choix que nous faisons pour mettre nos vies en accord avec l'Évangile. Nous savons que dans tout ce que nous avons à faire, c'est rarement la voie facile que nous avons à prendre. C'est en cela que j'ai comparé cette vie engagée pour Christ comme une randonnée à gravir pour gravir une haute montagne. C'est un chemin qui mène à un bel objectif, mais qui a son lot de difficultés, d'inconnus et d'incertitudes. L'Esprit-Saint prend la suite de Christ comme notre guide, non pas pour faire ce chemin à notre place, mais pour nous rappeler les enseignements, pour nous guider, pour nous permettre de prier le Père avec foi quand le chemin est bloqué, pour nous donner la conviction de prendre le bon chemin. Alors voilà, vivons ce chemin côte à côte avec le Saint-Esprit en imaginant, du coup, à la lumière de ce que nous lisons dans les évangiles, que c'est Jésus lui-même qui est avec nous. Amen.